Chers auditeurs, vous allez entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groux, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Monsieur le chanoine.
Mesdames, messieurs, un essai de consolidation de l'Union par le principe du fédéralisme. Le remède, un essai de consolidation de l'Union des Canada, un homme l'a tenté, qui n'avait rien de l'apprenti sorcier, mais qui était sans doute l'homme d'État le plus étoffé de son temps, Louis-Hippolyte Lafontaine. Trop clairvoyant pour ne pas déceler dès le début le caractère irrationnel de la politique de Durham et de Russell, cette union contre nature de deux provinces que tout divisait, un seul correctif a paru possible au jeune chef de 1841, substituer au principe rigide de l'unitarisme le principe le plus souple du fédéralisme. En d'autres termes, ne pas tenter d'unifier ce qui n'était pas unifiable, mais au lieu de l'utopique fusion, essayer de la collaboration. Pensée, théorie politique qui est bien la plus importante de l'époque, en ce qu'elle vaudra à un régime mort-né de se prolonger un quart de siècle. Comment Lafontaine y est-il venu? Il s'en est expliqué dans sa riposte 49 à Papineau. Le premier parlement de 1841, à peine ouvert à Kingston, les députés du Bas-Canada ont tout aussitôt revendiqué un rétablissement de la représentation parlementaire selon la population de chacune des sections de la province. Quelle réponse leur ont opposé gouvernement et majorité? Un énergique refus. Ce refus, argumentait subtilement Lafontaine, a établi en fait et en droit que l'acte d'union n'avait pas fait des deux Canada une seule et même province, mais qu'il n'avait fait que réunir, sous l'action d'une seule et même législature, deux provinces jusqu'alors distinctes et séparées, et qui devaient continuer de l'être. Poussant plus loin son argumentation, l'orateur concluait, c'est en se fondant sur le principe de ne voir dans l'acte d'union qu'une confédération de deux provinces, comme le Haut-Canada l'a déclaré lui-même en 1841, que je déclare ici hautement que jamais je ne consentirai à ce que l'une des sections de la province ait dans cette chambre un nombre de membres plus considérable que celui de l'autre, quel que soit le chiffre de sa population. Certes, c'était mettre assez lestement à néant le dessein impérial, mais en cet appareil politique qui ressemblait fort à une camisole de force, par quel autre moyen eût-on pu donner au haut comme au bas Canada quelques libertés de mouvement? Lafontaine a bientôt fait, du reste, de gagner à sa formule d'importantes adhésions. Un large esprit comme Francis Hincks ne tarde pas à s'y rallier. John et MacDonald, leur passé pour lui de la fronde, y viendra à son tour. Pour MacDonald comme pour Hincks, l'Union des Canada participe même d'une sorte de traité ou de pacte entre les deux provinces. Agreement, distinct bargain, qui ne peut être modifié sans le consentement de chacune des parties contractantes. En 1865, lors des débats sur la Confédération, MacDonald dira encore expressément, « Nous savons par expérience que depuis l'Union, nous avons eu une Union fédérative. Pour achever de nous éclairer, si nécessaire, observons dans le nouvel État le fonctionnement de la machine gouvernementale. » Dès son avènement au pouvoir en 1842, le premier souci de Lafontaine est d'y renforcer la formule du ministère à double section. Chaque section y sera composée d'un nombre équivalent de chefs de département, dont les uns se verront chargés de services spéciaux au Bas-Canada et d'autres de pareils services pour le haut. Le dédoublement s'accomplit par suite logique jusque dans la législation, c'est-à-dire jusqu'au Parlement, tant il s'avère absurde qu'un Parlement unique légifère pour deux peuples si distincts. D'où l'adoption du système si discuté de la double majorité, système assez confus, multiforme, qui prétend s'appliquer tantôt au cabinet et tantôt au Parlement. Dans le premier cas, chaque moitié du cabinet ne relève que de la députation de sa section de province. Dans le second, et ce sera la forme la plus généralement appliquée, un projet de loi n'affectant qu'une section de la province n'est sujet qu'au vote de la majorité des députés de cette section. Système capricieux, compliqué, où Chauveau verra un jour la démonstration la plus mathématique de l'absurdité de l'Union des Canadas. Système aussi, il faut le dire, contesté, rejeté par les chefs politiques, qui pourtant négligent rarement de s'y soumettre, tant il est manifeste que leur régime ne retrouve un peu de logique qu'au prix de ces déconcertants illogismes. Francis Hincks, Alan McNabb, Johnny McDonald, Georges-Étienne Cartier et combien d'autres quitteront le ministère plutôt que d'y rester contre le gré de leur section de province. Grave désagrément, sans doute, mais comment y obvier si la meilleure volonté du monde ne saurait changer la réalité historique et sociale des deux sections de la province. Passe-t-on en revue, en effet, les grands objets de la législation de l'époque, établissement des terres, immigration, abolition de la tenure seigneuriale, sécularisation des réserves du clergé, enseignement public, affaires religieuses, affaires municipales, codification des lois, où se dissimuler entre les deux sections de la province la dualité de fond, sinon même le dualisme irréconciliable. Si paradoxal que la chose paraisse, rien, faut-il le dire, n'a rendu possible le fonctionnement de l'Union autant que l'absurde système de la double majorité. En 1865, à l'occasion des débats sur la Confédération, John McDonnell le reconnaît, tel fut bien, surtout dans les derniers temps, la pratique parlementaire. Nous avons de fait, avoué McDonnell, une union fédérale, quoique cette union soit nominale. Et nous savons que dans les contestations vives qui ont surgi dans ces dernières années, si en quelque occasion une mesure affectant l'une des sections était combattue par les membres de l'autre section, ou si une mesure affectant les intérêts régionaux du Haut-Canada était votée ou rejetée contre les vœux de sa majorité par les voix du Bas-Canada, mon honorable ami le président du Conseil et ses partisans dénonçait avec la plus grande habileté et la plus grande énergie ce mode de législation comme une violation des droits du Haut-Canada. Et de même pour le Bas-Canada, si un projet de loi devenait loi contre les vœux de sa majorité. À ce prix, branlante et cahotante, il est vrai, la machine de l'Union put durer et même accomplir, en dépit de tout, quelques bons travaux. Ce serait en effet se fabriquer une fausse image de la période, de n'y voir que mésentente, querelle chronique. Comment oublier, par exemple, les derniers mois de l'administration Bagot, cette euphorie, on voudrait presque dire, cette idylle politique qui marque la trop courte inauguration du gouvernement responsable. L'histoire ne saurait négliger davantage l'étonnant mouvement de 45, alors qu'une chambre unanime votait avec un apparent enthousiasme, la réintégration de la langue française en ses droits officiels. Le contact le plus intime entre les deux races, les rencontres, les collaborations de la vie parlementaire n'ont pas été sans produire de bons résultats. Dans les esprits droits, que de préjugés ont disparu, et pour l'avenir, que d'utiles rapprochements se sont préparés. Quoi qu'il en soit, et malgré bien les misères, tous ne trouvent pas uniquement à se plaindre du régime. John McDonnell, par exemple, n'entrevoyait point, sans grave appréhension, en 57, la séparation des provinces. La vallée de l'Outaouai et une partie de la région à l'est de Kingston lui paraissaient liées par leur commerce au Bas-Canada. Ce Canada central trouvait ses marchés à Montréal et à Québec. Dans le cas d'une dissolution de l'Union, n'y avait-il point péri, se demandait McDonnell, que ce magnifique pays ne se détacha du Haut-Canada. Vers le même temps, la pensée de Cartier se rapproche assez de celle de McDonnell. Passé l'alerte de l'orageuse session de 1858, alors que l'épineux débat de la Red by Pup avait paru ébranler le régime jusqu'en ses fondements, Cartier, et pour des raisons fort semblables à celles de McDonnell, se convertit de nouveau aux avantages et à la durée possible de l'Union, au moins pour 10 ans. « J'enverrai avec peine la dissolution », déclarait en 61 l'homme d'État canadien-français. « Le Bas-Canada a besoin du Haut-Canada comme arrière-garde et le Haut-Canada a besoin du Bas-Canada comme porte de mer. » En 62, 2 ans avant la conférence de Québec, Cartier dira encore, depuis que le Bas-Canada a été uni au Canada, ma politique a toujours été de faire fonctionner l'acte d'union. Et je poursuivrai le même but, aussi longtemps que le Haut-Canada ne rendra point ce fonctionnement impossible par d'injustes demandes. Mais voilà bien la question. Le Haut-Canada se voudrait-il prêter à cette modération, et même l'esprit d'entente, un minimum de sagesse politique? Les institutions en pouvaient-elles autoriser l'espoir? Avait-on poussé assez loin le fédéralisme pour faire de l'Union un régime acceptable aux deux associés? Sir Wilfrid Laurier devait dire un jour, le vice profond de ce régime, ce fut de n'être ni franchement fédératif, ni franchement unitaire. Hélas, quoi de plus fréquent vers 50, sur les tribunes publiques et dans les chambres, que les dénonciations des empiétements du Bas-Canada sur les droits ou privilèges du Haut-Canada, ou de ce dernier sur les droits du Bas. Et ce n'est point aux fougueuses déclamations de George Brown ou du Dr. Ryerson que je pense en ce moment, non plus qu'aux philippiques de Papineau qui reprochent au ministre canadien-français d'être à la remorque du Haut-Canada et de se soumettre à tous ses caprices. Je pense plutôt à tant de plaintes sévères des partisans de La Fontaine, puis bientôt de Morin de Cartier, à telle brochure d'un député marquant de l'Union, Ovid Leblanc, qui avec la dernière violence accuse ses chefs politiques de sacrifier sans relâche leurs compatriotes. À propos du mariage forcé des provinces belges à la Hollande en 1815, M. Pierre de Lagorce fait ce commentaire en son Louis-Philippe. En dépit de toutes les précautions contraires, l'arrangement laissait aux Hollandais un arrière-aspect de domination, aux Belges un arrière-aspect d'annexé. Un tact exquis chez les premiers, une résignation tranquille chez les seconds, eût seul prévenu ou adouci les heurts. Par malheur, la souplesse n'était point la vertu des Hollandais, pas plus que l'endurance n'était celle des Belges. En cette fine analyse, qui ne reconnaîtrait un tableau presque fidèle de la vie canadienne à l'époque où nous sommes, tant il est vrai que l'histoire reste partout chose humaine. Un facteur peut-être eût pu enseigner la sagesse au Haut-Canada et offrir quelque sérénité au Bas, et c'eût été entre les deux le maintien de l'équilibre démographique. Mais lorsque, avec l'année 1852, le Haut-Canada l'emportera sur son rival par un excédent de 60 000 âmes, apercevra-t-il sous le même angle l'article de la Constitution, estimé par lui justice impeccable, pendant les 10 ans où cet article avait joué contre le Bas-Canada? Et s'il en jugeait autrement, et s'il décidait de se prévaloir de sa supériorité numérique, le régime pourrait-il alors échapper au dénouement fatal? Entre les deux sections de la province, ce serait en effet beaucoup plus que l'égalité de représentation parlementaire qui sera mise en jeu. Ce serait le principe même du fédéralisme, autrement dit, le mode de gouvernement imaginé par La Fontaine pour rendre possible quelque fonctionnement de l'Union. Ce jour-là, d'autres procédés ou expédients pourraient-ils encore sauver le régime ou seulement le prolonger?
Vous venez d'entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groux, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Un autre cours vous sera donné la semaine prochaine, le même jour, à la même heure et au même poste.